presque par défaut le personnage central d'une trilogie, avec le code de thème qui s'appelle En remorquant Jéhovah. Et la particularité, c'est que le point de départ de l'histoire, c'est que Dieu est mort. Donc, par le seul. Yes, the court de Dieu est 2 kilomètres. picturesque retelling of the book of Job from the Bible, God is put on trial in The Hague at the International Court of Justice for Crimes Against Humanity. And the last book, La Grande Fauchez, in English, The Eternal Footman, La Grande Fauchez, is my vision of a post-theistic world in which everybody knows that God is dead, and how this is initially a very depressing state of affairs.
Le livre, pardon, le corps de Dieu, c'était effectivement 2 km de long. Et donc, dans mon deuxième roman, Le jugement de Jéhovah, en fait, c'est une réécriture moderne du livre de Job, dans lequel Dieu, on entend un procès à Dieu, à la cour de justice de la haie. Et dans le troisième et dernier tome, qui s'appelle donc la Grande Faucheuse, eh bien, il s'agit de ma vision d'un monde post-théistique, et donc c'est ma vision du monde dans lequel tout le monde est au courant que Dieu est mort, et à première vue c'est très déprimant.
Du monothéisme, on va passer au polythéisme, puisqu'avec Sylvie Miller, on va avoir plein de dieux, tout un panthéon, que dis-je, tout plein de panthéons, même maintenant, au fur et à mesure que la série avance. Avec les aventures et les enquêtes de Jean-Philippe Lasserre, le détective des dieux, coécrit avec Philippe Ward. Alors là aussi, on s'amuse justement avec les divinités et on les maltraite un petit peu. Enfin, je me demande si c'est pas plutôt elle qui maltraite tout le monde. Enfin voilà, c'est un point de vue qu'on peut avoir. Peut-être un petit mot pour nous rappeler un peu comment est venue la genèse de cette série autour de ce personnage de Jean-Philippe Lasserre, qui est finalement le seul personnage à peu près normal de la série. Pas l'habitude. Donc, en fait, l'idée de la série nous est venue avec Philippe parce qu'on avait plein de choses qu'on aimait. On avait envie d'écrire une histoire ensemble. On adorait, on est passionné d'Égypte ancienne. On adore les histoires de détectives des années, des Hardboiled Detectives, des années 40-50, vraiment le détective à l'ancienne. On adore l'histoire. Et on aime bien s'amuser. Et donc on s'est dit, on va mettre tout ça dans un chapeau, on va secouer et on va voir ce qui sort. Donc est sorti ce personnage de détective qui a quitté donc notre joyeux pays pour aller en Égypte dans les années 30, mais dans une Égypte qui n'est pas celle que nous connaissons.
Et il a quitté la Gaule.
Il a quitté la Gaule. Et d'ailleurs, dans la Thompson, il va y revenir. Et donc, arrivant en Égypte, il découvre une Égypte qui a toujours des structures pharaoniques et où les dieux se promènent au milieu des hommes. Et donc, il va se retrouver confronté au panthéon égyptien le jour où Isis va pousser la porte de son bar et va lui dire « Toi, t'as perdu son manuscrit, je viens de s'embaucher. » Mais travailler pour un dieu, c'est pas facile parce qu'un dieu, quand il n'est pas content, il claque des doigts, il vous vaporise et la situation est réglée. Donc, du coup, on a mis beaucoup de choses dans ce premier tome qui se passe en Égypte. Puis dans le deuxième tome, on quitte l'Égypte, on est en Égypte au début, puis on part en Mésopotamie. Dans le troisième tome, là, c'est carrément Zeus qui se pointe pour demander à Lasserre de retrouver l'Atlantide. Donc on va voyager sur le pourtour méditerranéen, là, il va se confronter aux dieux grecs. Et dans le tome 4, ce sont les dieux romains. Puisqu'il y aura deux enquêtes, une première enquête à Pompéi, puis une deuxième où il doit repartir à Rome, et il va se confronter donc à ce panthéon de dieux romains.
Alors ces personnages en Rome, ces dieux, ils ont leur rôle, c'est-à-dire qu'il y a les gentils, il y a les méchants, donc c'est pas forcément toujours tout à fait évident. En tout cas, ils sont systématiquement à un degré plus ou moins élevé derrière les enquêtes, ou en tout cas derrière les événements sur lesquels doit enquêter Jean-Philippe Lasserre.
Oui, c'est-à-dire qu'il se trouve mêlé aux intrigues des dieux. Et là, il y a eu beaucoup de recherches, parce que quand on recherche un petit peu dans les différents panthéons, on se rend compte que derrière tout ça, il y a tout un tas d'histoires de famille, d'amitié, d'inimitié, de haine, d'inceste, etc. Et donc, ces dieux se mettent des bâtons dans les roues. En plus un dieu a de fidèles, plus il a de pouvoir. Donc, on essaie de piquer les fidèles du copain.
avec des gens qui ne veulent pas croire en Dieu mais qui sont obligés de faire face à sa mort, on se trouve avec
faut savoir que par exemple dans Rome, quand Genova, on a quasiment une guerre mondiale qui va se déclencher à travers le corps, le transport du corps de Dieu. Donc on est quand même aussi dans des curseurs qui sont poussés très loin. James, quand vous avez travaillé justement sur Dieu, sur ce personnage qui est quand même particulier, en plus vous faites mourir, est-ce que vous avez des retours particuliers? Est-ce que ça a été un peu accepté facilement, ou est-ce qu'au contraire vous avez pris une volée de bois vert?
Science fiction tends to be open-minded and fundamentally secular. So I did not get a lot of grief for the subject per se, for the act of killing God. And there are many places in the United States where that would be a controversial thing to do, to execute the creator of the universe, but not in the science fiction sphere. So I did not feel any need to put a pillbox or a machine gun nest on my lawn. I did have a Doberman when the book was published, just in case, and a guard dog.
C'est que le public de science-fiction est plutôt assez ouvert d'esprit, donc du coup, j'étais pas non plus trop anxieux de tuer Dieu. C'est controversé dans certains cercles. De tuer Dieu et d'exécuter le créateur de l'univers, mais heureusement, c'est pas partout. Au moment où j'ai publié le livre, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir une mitrailleuse dans mon jardin pour me protéger. Mais quand même, j'avais un Doberman dans mon jardin, on sait jamais.
Now, I would have to say, let's put this book, and I came across the Atlantic Ocean.
Most
of the book. Darwin, it was published as a mainstream book in the United States, so it reached a different readership, and some of them were upset by this book, which argues that the Darwinian revolution underwrites the atheist worldview. This is, to be sure, controversial and complicated position to take, but the plot turns on Darwin's zookeeper, believing she can win a huge cash prize, £50,000, to the first philosopher or theologian or scholar who can prove or disprove the existence of God. And my adventuress believes that if she goes to the Galapagos Islands and rounds up those same live specimens, the tortoises, the iguanas, the exotic birds that inspired Darwin, and bring them back to the proprietors of the Percy Bysshe Shelley Society, she will win the £10,000. So because
oui, donc je vais poser simplement le livre juste ici parce que j'ai quand même traversé l'océan Atlantique en grande partie pour promouvoir mon livre qui s'appelle donc L'Arche de Darwin. Et il a été publié aux États-Unis comme un livre grand public en fait. Et du coup, il y a certains position entre la vision athéiste. Et donc, c'est une position assez controversée à prendre. Et donc, dans le livre, le gardien de, enfin plus exactement la gardienne de zoo, du zoo de Darwin, prend connaissance d'un concours qui existe et qui vise à prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu. Et il y a un prix en argent pour celui qui arrivera à prouver soit l'un, soit l'autre. Et donc, elle pense que si elle arrive à aller aux îles Galapagos et à ramener des spécimens de tortues et d'iguanes, et donc à les ramener à la principale. Ça serait à Londres, et donc les soumettre au juge du concours, eh bien, elle pourra remporter le prix de 10 000 livres.
So, to answer your question, finally, if you were on Facebook, you get many birthday greetings, but a few of the evangelical Christians who took offense at my book did not use the occasion of my birthday to affirm my existence. Instead, they said, at least two people said, James Morrow, I see it's your birthday and that you're rather old and you're going to die soon. And I'm glad to know that.
Donc, ma réponse plus particulièrement à votre question. Si on est sur Facebook, on reçoit des messages pour son anniversaire en particulier. Et donc, les chrétiens qui ont été offensés par ce que j'ai pu raconter dans l'Arche de Darwin n'ont même pas pris la peine pour mon anniversaire de reconnaître affirmer mon existence. Au lieu de ça, ils sont venus me voir pour me dire vous allez mourir bientôt, vous êtes assez vieux, et je voudrais dire que je suis vraiment content de le savoir.
Si, c'est pas de menace venue d'Égypte, non, ça va, c'est bien passé.
C'est à présent, aucun souci. Aucun risque de vaporisation. Éventuellement, des petits clins d'œil amusés, des petits camarades qu'on a mis dans les livres un peu partout à droite à gauche, puisqu'il y a plein de clins d'œil par finalement nos passions. Dans le tome 4, à un moment donné, on se retrouve avec la patrouille du temps qui fait une petite apparition comme ça, petit clin d'œil à Paul Anderson. On a l'assistante de la serre, donc Fazimel, qui est donc le nom à peine déformé d'une amie écrivain et traductrice. serre, c'est vraiment...
C'est le délire qui prime.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, dans la serre, je dirais que la réflexion, elle est cachée derrière le délire. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des petits clins d'œil et de mettre des scènes assez cocasses, tout en sachant que derrière, il y a quand même une réflexion autour du pouvoir, des dieux. Mais effectivement, on voulait vraiment faire passer ça derrière beaucoup de second degré, en fait.
Avec un univers qui s'enrichit à chaque fois, c'était aussi une volonté justement de ne pas rester uniquement concentré sur l'Égypte, mais d'aller titiller les autres panthées.
Oui, oui, absolument. Bah, déjà parce que si on avait fait 4 volumes dans le même univers ou 5 volumes, on aurait fini par s'ennuyer. On a vraiment essayé, d'un temps à l'autre, de renouveler les choses puisque les techniques narratives ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, dans le tome 4, on a carrément les deux personnages de Lasser et de Fasimel qui se retrouvent séparés. Et du coup, Fasimel va aussi mener l'enquête de son côté. Et c'est là où on découvre, à travers sa vision des choses, qui elle est, et on en apprend sur son histoire. Dans le tome 3 sur l'Atlantide, là, on était vraiment dans le récit de voyage, où finalement, il quitte l'Égypte, il est en bateau et on est un peu sur une aventure de voyage. Donc, d'un tome à l'autre, on essaie vraiment de renouveler les panthéons, un petit peu la narration. Le tome 4, par exemple, est un peu plus sombre que les autres. Alors, on est un peu plus en tragique par endroit, même s'il y a quand même des scènes cocasses, par exemple, bon, pour juste dévoiler un tout petit peu, la sœur va se retrouver amenée à faire des sauts dans le temps. C'était très drôle de le faire arriver en plein milieu du lit de Caligula, en pleine partie fine, avec des esclaves, etc. Amusant. Hein, cool. Donc, il arrive là au milieu, bonjour monsieur, dame. Donc, on va vraiment essayer de chercher à renouveler, et dans le tome 5, on va à nouveau essayer de renouveler à travers justement la boule. Donc, le fait de le faire revenir, donc là, on va... On n'en sort pas, mythologie sérieuse. On va se retrouver après Dragon Ball de Breton du côté de Rennes aussi. On va préparer la galerie de portraits. Ça tient.
On a donc ces trois personnages centraux, même si c'est vrai que le développement est un peu endormi, mais on sent bien que sa présence se fait de plus en plus remarquée, même si tout le monde ne comprend pas exactement ce qui se passe. Mais pour Sankarta, c'est un roman qui a une inspiration ouvertement revendiquée, et c'est le Terry Pratchett.
Oui, surtout que Terry Pratchett est malheureusement décédé quand j'étais à peu près au dernier tiers du roman. Ça a été un choc vraiment épouvantable pour moi, parce que je savais qu'il était très très malade. Je ne pensais pas qu'il était déjà aussi malade, je ne pensais pas que la fin était aussi proche. Et c'est vrai que j'étais sur ce roman qui était quand même, même si bon, je parle beaucoup du compromis moral et bon, j'essaie de faire passer quand même des idées, j'étais quand même sur un roman qui était très drôle et je suis beaucoup sur l'humour. Et je me renferme dans un café pour travailler parce que je suis tout pour connecter Internet, sinon je passe mon temps sur Facebook, comme beaucoup de gens. Et je suis allée travailler dans ce café qui était une sorte de cave et je suis revenue. Et je crois que je travaille dans un atelier d'artiste qui s'appelle le studio Mathurgan. Et là, je rentre dans le couloir et on me dit, mais tu as vu, Terry Pratchett est mort. Et j'ai rien dit. Je me suis retournée dans mon bureau, j'ai rien dit en main parce que je ne pensais pas que c'était aussi imminent. Et ça a été, après, c'est vrai que j'ai continué mon roman en essayant d'être encore plus drôle parce que c'est vraiment un roman hommage et c'était une façon de le rendre hommage. Et c'est vrai que moi, l'espoir que j'ai toujours, mais je pense avoir plus de temps que ça, c'était qu'un jour mon roman soit traduit et qu'un jour Terry Pratchett me dit hey, j'ai bien rigolé. Et c'était mon fantasme de jeune auteur, de jeune autrice, et c'est ce qui ne se produira jamais, du coup.
Alors là, encore, on a des personnages qu'on vient de voir avec Sylvie qui sont assez particuliers. On a évoqué la tyranne qu'on voit sur la couverture, si je me souviens bien.
Oui, c'est
elle. Remarqué qu'elle s'appelle Kenya, mais qu'elle n'a pas vraiment le physique de l'emploi pour son prénom. Et puis, on a évoqué la sorcière, mais aussi des personnages secondaires qui sont aussi bien gratinés et qui viennent nous amener aussi le côté des vrais méchants, si on peut dire ça comme ça.
Oui, alors en fait, les vrais méchants, il y en a surtout un, le vrai méchant, les autres sont surtout très bêtes en fait, donc surnom. Voilà. Il décide de partir en guerre pour se faire de son image.
Et puis on a, alors je ne sais pas si je suis dans l'entreprise, on peut dire ça comme ça.
Oui, Sinus Maverick.
Un tour de magie.
Voilà, mais c'est pas vraiment méchant en fait, parce que donc,
il est opportuniste.
C'est un peu un opportuniste, mais il est son chef d'entreprise qui monte sa boîte. Alors lui, son truc, c'est qu'en fait, il fait des sortilèges en papillotes, un truc comme les crackers, selon l'anglais. C'est-à-dire que son crack, ça fait un sortilège où tout le monde peut faire de la magie. Ça coûte assez cher quand même. Il a monté son entreprise qui cartonne, qui est une entreprise basée à Qatar, parce qu'en plus, c'est un citoyen volontaire. Et il trouve que quand même, la tyrannie, ça fait un petit peu trop long de tour de bras. Donc, très très logiquement, il s'inscrit dans un complot, puisqu'il a beaucoup d'argent, et il finance un complot pour tuer la tyrannie. Mais bon, il n'y a pas de mauvaise volonté en fait. Hein. C'est juste que. Il massacre tout le monde quand même, donc ça serait bien que ça s'arrête. Et évidemment, évidemment, il ne sait pas du tout qu'elle agit comme ça, pas par goût, pas par cruauté, mais parce qu'elle n'a pas le choix.
Là encore, on a des personnages alors, qui sont tous très visuels. J'ai tellement de cartons pour Sylvie, j'ai eu pas la même sensation en lisant les autres romans. Il y a ce côté, il faut qu'on les voit, il faut qu'on les imagine.
Ah, mais si la BBC veut m'acheter les droits, je ne suis pas contre. Hein.
C'est animé, peut-être plutôt.
Alors, moi, j'ai vu les films de la BBC sur Terry Pratchett, donc moi, je les imagine plus comme ça, en fait. Donc, pour une animation, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas si les posons de 14 en particulier seraient très adaptables en dessin animé, parce que dans l'imaginaire français, le dessin animé est toujours réservé à l'enfance. Or, c'est pas vraiment. Enfin bon, les ados, à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment tourné vers l'enfance comme livre. Le prochain roman que j'écris, qui s'appellera L'Alchimiste Cooper, sera déjà peut-être un peu plus dans cette direction.
Il y a même le cas, alors là, c'est le mauvais esprit qui est au pouvoir, puisque les punks sont l'avenir de l'humanité. Là aussi, il y avait. Déjà, comment est venue l'idée de ce roman, de confronter des punks avec l'apocalypse zombie?
Une bonne question. Je ne sais plus. Probablement pour faire quelque chose de différent que des bandes de surréalistes américains dans les plaines du Dakota ou du Montana. Donc voilà, on les a mis à Paris et puis finalement, c'est plus marrant de les confronter à des. Enfin, de confronter les zombies à des gens qui. Avant de les séries, mais on n'est absolument pas préparé à affronter les zombies. Je vous dis, faites attention parce que
ça reste des tremblements de terre.
Non, mais les tremblements de terre, ça arrive. Et les zombies, quand ça va arriver, ça va être l'enfer. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le monde, sauvez le monde et
préparez-vous.
Des Kalachnikov et creusez les. Enfin, bon, bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire. À l'époque. Bon, bref, le punk n'ayant pas du tout été créé pour sauver le monde. Contrairement aux chrétiens, ils se retrouvent face à une apocalypse qui est quand même un peu il y a le côté mystique,
il y a les gens qui ont ce qui se passe.
Ce qui est pas évident, c'est qu'on a préparé l'apocalypse, la Jérusalem céleste. Et ils s'en foutent en fait.
On voit sur la couverture d'ailleurs qu'il y a le drapeau anarchiste qui arrive sur la tour Eiffel. Parce que c'est leur fantasme d'une certaine manière.
Moi j'étais petit, ou pas très petit, j'ai lu un livre de Jean-Bernard Pouilly qui s'appelle Spinoza en cul égal. C'est un très bon livre que je vous recommande. Et où le héros, je me suis décidé un jour de voler un avion à Catalina, enfin les avions qu'on utilise pour balancer la flotte dans les incendies et de repeindre tout le sacré cœur en rose, je crois. Donc le sacré cœur, il y a une sorte de symbole, c'est l'expiation des crimes de la commune. Donc voilà. Donc
sans distinction, parce que finalement, tout le monde a des torts, autant que de gens qui peuvent avoir des raisons de croire ou de ne pas croire.
C'est une question pour moi.
C'est une question.
Encore une fois, une question de.
Oui, alors, encore une fois, c'est pas uniquement que vous attaquez la religion et les croyants, mais vous attaquez tout autant les athées, finalement, dans vos romans. Ils ont tout autant le mauvais rôle que les croyants.
Themselves the Central Park West Enlightenment League, with a nod to Voltaire and the Siècle des Lumières. And if you think about it, if God is dead, that means he once existed, which negates the atheist worldview. It's bad news for the Catholic Church. They're afraid that it's going to put them out of business, and so they want the bad news swept under the rug. But the atheists are equally upset. So I valued the composition process with Towing Jehovah because it gave me an opportunity to make fun of myself.
J'ai imaginé un groupe d'athées qui s'appelait la Ligue des Lumières de Central Park West, et donc qui se réclame de Voltaire, du siècle des Lumières. Et donc c'est vrai que c'est une question assez embêtante, le fait que Dieu soit mort, étant donné que si on considère que Dieu est mort, ça veut dire qu'il a existé. Donc, en quelque sorte, eh bien, ça revient à contredire la vision du monde athée. Et en même temps, c'est aussi une mauvaise nouvelle, bien évidemment, pour l'Église catholique, qui préfère donc pousser la nouvelle sur le tapis, qu'on n'en parle pas trop. Évidemment, de leur côté, eh bien, les athées de leur côté ne vont pas non plus être particulièrement réjouis de cette nouvelle. Et j'ai beaucoup aimé en fait le travail d'écriture sur ce livre, tout simplement parce que ça m'a donné l'occasion de rire de moi-même en fait.
When you are a satirist, comme moi, when you're a satirist, nothing is sacred, not even atheism.
Donc, quand vous êtes un satiriste comme moi, en fait, rien n'est sacré, même pas l'athéisme.
I should hasten to add, there can be no such thing as a disproof of God, even though that's the plot of Darwin. What Darwin accomplished was not a disproof of God, but I think his accomplishment was twofold. First of all, he destroyed one of the proofs of God, the teleological proof, the argument from design. And secondly, and I believe this is why Darwin gets people so upset, particularly dans les États-Unis, Darwin upsets Americans in particular because he didn't so much kill God as replace God. Darwin replaces God with this construct, this idea, this vision is so much more magnificent and awe-inspiring and revelatory than anything in the Bible. This vision of the interconnectedness of everything that is alive right now and has ever lived and ever will live.
Thank you. Et je voudrais donc ajouter qu'en réalité, il ne peut pas y avoir en réalité une preuve de l'inexistence de Dieu, même si c'est l'histoire de mon livre L'Arche de Darwin.
parce que de premier abord, c'est pas le personnage hors norme de la série. Au contraire, il est le plus, celui auquel on s'identifie donc peut-être le plus facilement. Or, pourtant, petit à petit, on le voit quand même évoluer au fur et à mesure de la série. On voit qu'il prend de l'assurance. À tort ou à raison, d'ailleurs, ça sera au lecteur d'en juger. On le voit quand même grandir, prendre de l'étoffe.
En fait, Lasser, au tout début de la série, c'est un personnage qui est un petit peu brisé. Il a des comptes à régler avec les dieux, puisque les dieux ont tué ses parents, ils ont massacré des gens qu'il aimait, il s'est enfui et il se retrouve dans un pays étranger. Il est très paresseux, on sent que c'est un personnage qui est un peu cassé dans sa tête. Et en fait, au fur et à mesure, il va se créer tout un certain nombre d'amis qui vont l'aider. D'ailleurs, tous les personnages secondaires sont assez hauts en couleur dans la serre, entre le Sphinx qui est un indique et qui, pour donner des renseignements, exige qu'on résolve une énigme. Il va y avoir un taureau ailé, il y a tout un tas de personnages, un djinn, enfin voilà, il y a des personnages
qui ont un génie.
Le génie des arts, oui,
comme ça, ça peut dire.
Et finalement, le fait de se confronter aux difficultés, ça va l'aider à mûrir et à grandir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va progresser avec lui. D'ailleurs, Vasimel progresse aussi, puisqu'elle en découvre de plus en plus. Et elle va aussi beaucoup l'aider. Mais il y a certains dieux d'ailleurs qui vont finalement se révéler plutôt sympas.
Mais qui vont avoir confiance en lui. Ce qui n'était pas éclairé.
Oui, absolument. Et donc, finalement, lui, il va évoluer et il va pouvoir ensuite retourner en cours, affronter son passé et affronter justement certains dieux avec lesquels il a des comptes à régler.
Ce qui sera dans le prochain tome. Je voulais juste quand même qu'on dise un petit mot, parce que le prochain tome, il faudra attendre l'année prochaine.
Le prochain tome, pour l'instant, effectivement, a été un peu mis entre parenthèses, parce que Philippe a eu des soucis un peu perso, de famille, etc. Moi, j'en ai eu aussi, et du coup, à un moment donné, moi, j'aurais été disponible pour écrire, lui, il n'était pas, donc je me suis retrouvé avec des temps libres. J'avais un projet qui traînait dans les tiroirs depuis une dizaine d'années, donc j'ai dit, allez, on se lance. D'ailleurs, il y aura aussi des dieux, il peut être dans ce débat-là.
C'était ma question, c'est le voyage, j'ai un personnage hors norme dedans.
Il y a aussi des hors normes, alors là, on n'est pas tout à fait dans le même univers. Donc ça va s'appeler Satinka, et c'est l'histoire d'une jeune fille aux États-Unis. Donc là, on va vraiment beaucoup, je travaille, et là, j'ai écrit en solo celui-ci. C'est mon premier gros bébé en solo. J'avais écrit plein de nouvelles, mais pas encore de romans. Et donc, Satinka est une jeune fille américaine qui habite en Californie, et depuis l'enfance, elle rêve de train. Elle rêve de train à vapeur. Toute la construction du chemin de fer, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu la construction de cette grande ligne choc de chemin de fer qui a relié l'Est et l'Ouest, et qui, notamment en Californie, leur a donné beaucoup de travail avec le franchissement de la Sierra Nevada. Et en fait, elle va chercher à savoir d'où ça vient, et elle va devoir remonter et trouver ses origines. Elle va se retrouver aussi face à d'autres personnages qui représentent aussi toute cette histoire du chemin de fer, avec un descendant d'un Chinois qui a participé à la construction, avec également un descendant d'Indiens qui ont été massacrés au moment de la construction. Et donc on va trouver là beaucoup de choses de l'histoire des États-Unis, avec notamment aussi ce que les Chinois ont apporté, puisque c'est de la fantaisie, donc il y aura aussi de la magie. Donc la magie des Chinois et ce qu'ils faisaient, comment ils ont importé ça aux États-Unis, et évidemment beaucoup de chamanisme. Et là, on va trouver des animaux totems, on va trouver les esprits, les grands esprits, et il y aura pas mal de mysticisme, et elle va se découvrir aussi autour de tous ces environnements-là.
Sorti au mois d'août.
Sorti au mois d'août.
On vous donne rendez-vous en mai prochain pour en parler ici.
Sans problème.
Aux éditions critiques, évidemment. On parlait de magie à l'instant, c'est aussi un des ingrédients forts de notre roman. Là aussi, ça permet de faire tout un tas de choses, et surtout, ça, le roman commence par par la première scène qui est l'explication de l'histoire du démon, puisque pour le coup, le lecteur va être complice de la tyranne et de la sorcière, puisque nous, on sait ce qui plane au-dessus de 14. Mais quand le roman démarre pas très bien, puisqu'il a des misères à la sorcière.
Qui est majeur de sa promotion et malheureusement qui est un parfait crétin sans aucun sens pratique à côté de ça et qui en fait part sur sursaut d'orgueil, de vanité même.
Mais c'est aussi un outil d'aventure comique, finalement, assez intéressant.
De toute façon, moi, c'est vrai que la fantaisie que j'aime, je la visualise pas sans magie. Pour moi, ça fait partie intégrante du genre, ça, c'est la couleur du genre.
Thank you.